VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Il est 18h30 en temps universel. Jacques Aristide dans votre compagnie. Très content de vous retrouver pour Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Les titres en ce vendredi 12 octobre 2018. La Rwandaise Louise Mushikiwabo, élue à la tête de la francophonie en dépit des critiques.
Le Rwanda n'a jamais quitté la francophonie. C'est une occasion pour Louise Mushikiwabo de promouvoir le rayonnement du français qui est une langue, je dirais, africaine.
Au Nigeria, des centaines d'enfants de la milice anti-Boko Haram libérés. Des Saoudiens en Turquie pour enquêter sur la disparition du journaliste Jamal Khashoggi. Aux États-Unis, le bilan de l'ouragan Michael risque de s'alourdir. Et puis, comme à l'accoutumée, vos rubriques économiques et sportives à venir dans 10 minutes. Sa nomination ne faisait plus aucun doute. La ministre des Affaires étrangères du Rwanda, Louise Mushikiwabo, a été préférée à la sortante, la Canadienne Michaëlle Jean, pour diriger l'Organisation internationale de la francophonie. Nathalie Barge.
Louise Mushikiwabo a bénéficié du soutien des pays africains et de la France, tandis que Michaëlle Jean n'a été soutenue ni par le Canada ni par le Québec, les plus grands contributeurs de l'OIF après la France. Son élection est une victoire personnelle pour le chef de l'État rwandais Paul Kagame, qui a imposé son choix à ses pairs africains, et pour le président français Emmanuel Macron, qui espère favoriser un rapprochement avec Kigali. Le Rwanda avait remplacé en 2008 le français par l'anglais comme langue d'enseignement obligatoire et avait rejoint le Commonwealth un an plus tard. Mais Kigali a vite compris qu'il serait une grave erreur de tourner le dos à l'Afrique centrale francophone en ne privilégiant que des relations avec l'Afrique de l'Est anglophone. Madame Mushikiwabo, qui n'est pas membre du FPR de Paul Kagame, est très populaire auprès des jeunes et elle est reconnue pour son sérieux, ses compétences et son franc-parler auprès de la communauté diplomatique.
Réaction du président rwandais, Paul Kagame dit souhaiter que les relations tumultueuses entre le Rwanda et la France prennent un nouveau départ qui pourrait passer par le retour d'un ambassadeur français à Kigali. Il était interrogé à Yerevan, en Arménie, en marge de ce sommet de la francophonie. L'épidémie d'Ebola qui sévit dans l'est de la République démocratique du Congo a atteint le cap des 200 cas, dont 125 morts, d'après l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qui se dit également inquiète de la persistance de l'insécurité dans la région. L'OMS a constaté une augmentation du nombre des cas ces dernières semaines, surtout dans la ville de Beni, devenue l'épicentre de l'épidémie. Un glissement de terrain provoqué par de fortes pluies hier a entraîné la mort d'au moins 34 personnes dans l'est de l'Ouganda, au pied du mont Elgon, non loin de la frontière avec le Kenya. La catastrophe a créé le chaos dans le district de Bududa. Selon certaines sources, une rivière est sortie de son lit dont l'eau boueuse a balayé un marché de la localité de Bukalasi. Le gouvernement a dépêché des équipes de secours vers les zones affectées. Selon le président Yoweri Museveni, la Croix-Rouge a envoyé sur place du matériel pour aider les populations, dont des couvertures et des tablettes pour purifier l'eau. En Côte d'Ivoire, la campagne en vue des élections locales de ce samedi a pris fin hier. Quelques 6,5 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour des scrutins municipaux et régionaux qui ne manqueront pas d'intérêt, comme nous le rapporte le correspondant de VOA Afrique à Abidjan, Georges Ibrahim Tonkara.
Les électeurs ivoiriens vont choisir ce samedi leurs conseillers municipaux et régionaux. Ces élections locales vont surtout permettre au nouveau parti unifié, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, le RHDP, dirigé par Alassane Ouattara, de voir ce qu'il représente réellement sur le terrain depuis le départ du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI d'Henri Konabédié, de cette coalition. Preuve de l'importance que le pouvoir accorde à ces élections, le premier ministre Amadou Gon Coulibaly était sur le terrain tout au long de la campagne en vue d'apporter son soutien et celui du chef de l'État à plusieurs ministres. On suivra également de près la dizaine de candidats indépendants proches de Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale. Ces élections locales sont aussi un test pour la commission électorale dont l'indépendance est mise en doute par plusieurs formations politiques. Un double scrutin qui a valeur de test pour les différents partis politiques avant la présidentielle de 2020. Georges Brahim Tounkara, VOA Afrique, Abidjan.
Plus de 800 enfants enrôlés dans la milice civile d'autodéfense qui lutte avec l'armée contre le groupe djihadiste Boko Haram dans le nord-est du Nigeria ont été libérés d'après l'UNICEF. La Civilian Joint Task Force avait pris l'engagement il y a un an de ne plus recruter ni utiliser d'enfants, mais aussi de libérer tout mineur travaillant sous ses ordres dans le cadre d'une feuille de route signée avec l'ONU. L'UNICEF indique toutefois que beaucoup d'autres enfants restent dans les rangs d'autres groupes armés, qu'ils soient en situation de combat ou d'appui. Selon l'ONU, au moins 3900 enfants ont été tués et 7300 blessés dans le nord-est du Nigeria entre janvier 2013 et décembre 2016. Boko Haram a également eu recours aux enfants à de nombreuses reprises pour commettre des attentats dans la région. L'ancien chef de la diplomatie sud-africaine pendant l'apartheid, Roelof Pikbota, qui a ensuite servi le gouvernement du président Nelson Mandela, est décédé à l'âge de 86 ans à Pretoria. Pikbota fut la vitrine internationale du régime ségrégationniste pendant 17 ans au poste de ministre des Affaires étrangères de 1977 jusqu'à l'avènement de la démocratie en 1994. Il avait ensuite intégré le gouvernement d'union nationale du premier président noir sud-africain démocratiquement élu, Nelson Mandela, où il avait occupé le portefeuille des mines et de l'énergie pendant 2 ans. Le Cameroun, l'Érythrée et la Somalie ont été élus ce vendredi au Conseil des droits de l'homme par l'Assemblée générale des Nations unies lors d'un scrutin sans compétition. Parmi les autres pays élus, le Bangladesh, le Bahreïn et les Philippines. 18 sièges de cette instance de 47 membres basés à Genève étaient à pourvoir pour un mandat de 3 ans pour plusieurs ONG d'Europe, des États-Unis et du Canada. Certains de ces pays ne sont pas qualifiés pour siéger à ce conseil en raison de leurs faibles résultats dans ce domaine.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Une délégation saoudienne est arrivée en Turquie pour des entretiens importants sur l'enquête sur le sort du journaliste saoudien Jamal Khashoggi à Istanbul, au moment où Riyad est accablé par des révélations lui imputant sa disparition ou son assassinat. Eddie Sango.
Le président Donald Trump continue de réclamer des explications à l'Arabie saoudite. Son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, prévient que son pays ne va pas rester silencieux. La Maison-Blanche et le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, se sont entretenus avec les princes héritiers Mohamed Ben Salman. Washington a aussi demandé à l'ambassadeur saoudien rentré dans son pays d'apporter des informations à son retour aux États-Unis. Cependant, le président américain a d'ores et déjà exclu un gel des ventes d'armes américaines à Riyad. Les Saoudiens payent 110 milliards de dollars et M. Trump ne voudrait perdre ses marchés au profit de la Russie ou de la Chine. Ankara et Riyad se disputent sur d'éventuelles vidéos. Côté turc, des images des vidéosurveillance tournées à l'extérieur du consulat, diffusées dans les médias, montrent les journalistes entrer au consulat sans jamais en ressortir. Les Saoudiens ont rétorqué que les caméras de leur mission à Istanbul ne fonctionnaient pas ces jours-là.
Un tribunal turc a ordonné ce vendredi la levée des contrôles judiciaires à l'encontre du pasteur américain Andrew Brunson et sa libération immédiate, ce qui devrait apaiser les tensions entre Ankara et Washington. La justice turque lui reprochait des liens supposés avec des activistes kurdes et des partisans de Fethullah Gulen, des opposants turcs réfugiés aux États-Unis. Andrew Brunson, placé en résidence surveillée en juillet dernier après 21 mois de détention en Turquie, a été condamné à 3 ans et 1 mois et demi de prison, mais le tribunal d'Alagia a considéré qu'il avait déjà purgé sa peine. Son avocat a déclaré que le pasteur s'apprêtait à rentrer aux États-Unis. 12 personnes au moins ont perdu la vie dans les États américains de Floride, de Géorgie, de Caroline du Nord et de Virginie lors du passage de l'ouragan Michael, et ce bilan risque de s'alourdir. Les détails avec Nanit Talani.
les autorités ont annoncé le décès de 5 personnes dans l'État de la Virginie. En Floride, 4 personnes sont mortes selon le bureau du shérif du comté de Gadsden. Dans l'État voisin de Géorgie, une fillette de 11 ans a été tuée mercredi et en Caroline du Nord, une personne a perdu la vie lorsqu'un arbre s'est effondré sur une voiture. Michael a sémé la désolation sur son passage. Le département des urgences en Virginie ajoute que 520 000 foyers sont privés d'électricité. En plus, les inondations, les arbres déracinés, les routes coupées et les décombres vont affecter le quotidien des populations. Les consignes d'évacuation avant l'arrivée de l'ouragan Michael ont probablement sauvé de nombreuses vies. La reconstruction se fera après les opérations de sauvetage et de déblaiement effectuées par des milliers de soldats de la garde nationale et des secouristes. Michael, dégradé en tempête tropicale, a balayé hier la Virginie et s'éloigne maintenant du territoire américain.
Également dans l'actualité, le pape François dit avoir accepté à contre-cœur la démission du cardinal américain Donald Veul de son siège d'archevêque de Washington sur fond de scandales sexuels impliquant des prêtres aux États-Unis. Voilà pour les nouvelles qui dominent l'actualité africaine et mondiale ce soir. Sans plus tarder, en condensé des nouvelles économiques en Afrique, il est l'heure de la Minute Éco avec Nanit Talami.
Le Burkina Faso a adopté un projet de loi de finances rectificative pour l'exécution du budget 2018 avec une réduction de 392 millions de dollars. Le niveau de déficit budgétaire passe à 396 milliards de francs CFA, soit une amélioration de 6,42%. Rapporté au PIB nominal, le déficit se situerait à environ 5%. Le gouvernement du Japon accorde au Libéria une aide alimentaire de 2,7 millions de dollars sous forme de riz. Le ministre libérien des Affaires étrangères, M. Findlay, a également réitéré l'appel de son pays à l'aide bilatérale du Japon dans les domaines du logement et la construction d'un marché dans la ville de Pennesville. La Tunisie bénéficiera de la Banque africaine de développement d'un prêt de 75 millions d'euros ainsi qu'un don de 1 million d'euros pour financer la première phase du programme d'assainissement des petites communes de moins de 10 000 habitants. Cette opération a pour objectif d'améliorer le service d'assainissement de 33 petites communes réparties sur 19 gouvernorats. Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari demande au Parlement d'approuver l'émission de 2,79 milliards de dollars d'euros obligations destinées à financer le déficit budgétaire et des projets d'infrastructure.
À ne pas louper parce que lui, cet homme, il est fidèle au poste. Yacouba Ouédraogo pour les sports. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jacques et bonsoir à tous.
Alors, nous sommes de plein pied dans la troisième journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019.
Tout à fait Jacques, 10 matchs au programme de ce vendredi, dont un certain Cameroun-Malawi. Après des débuts compliqués avec un match nul concédé aux Comores 1-1 le mois dernier, le Cameroun du nouveau sélectionneur Clarence Seedorf s'est imposé à domicile face au Malawi 1-0. Déjà qualifié pour la CAN 2019 en tant que pays hôte, le Cameroun a dû se contenter d'un but signé de Maxime Choupo-Moting à la 63e minute. Le Gabon s'est aussi refait une santé grâce à son succès 3-0 devant le Soudan du Sud. A noter aussi la précieuse victoire de l'Angola face à la Mauritanie 4-1 entre le Togo et la Gambie.
Une troisième journée qui va se poursuivre demain.
Et oui, là aussi il y a 10 matchs au programme. Entre autres, le Nigeria reçoit la Libye dans le groupe E. Duel au sommet entre les deux Congo et entre deux co-leaders disons du groupe G, la RDC et le Zimbabwe. Le Burkina Faso voudra se racheter devant son public face au Botswana après son humiliation par la Mauritanie lors de la deuxième journée 2-0. Situation identique pour le Sénégal qui fait face au Soudan après le 1-1 à Madagascar. Opération confirmation pour les Lions marocains de l'Atlas qui jouent les modestes Comoriens à Casablanca. À suivre aussi Afrique du Sud, Seychelles, Ouganda, Lesotho, Guinée équatoriale, Madagascar, Mozambique, Namibie et enfin Niger, Tunisie.
Yacouba, un mot sur Patrice Neveu qui est proche du Oroya.
Oui Jacques, alors qu'il avait entamé la semaine dernière des discussions avec le Mouloudia Club d'Alger, Patrice Neveu devrait finalement s'engager avec le Oroya Athletic Club. Le technicien français est présent à Conakry pour discuter avec les dirigeants du champion en titre de la Guinée. Ancien sélectionneur du Sili, Neveu aurait privilégié le club de Matam qui sort de 3 ans sous les ordres de Victor Mvuka. cas, avec notamment un quart de finale historique en Ligue africaine des champions.
Et pour terminer, le Ghana qui affûte ses armes pour la Coupe du Monde féminine des moins de 17 ans.
Jacques, les Black Maidens sont logés au centre d'excellence du football à Pram Pram depuis maintenant 6 semaines et continuent donc leur préparation.
Yacouba Ouédraogo, merci
le
bien.
Monde, aujourd'hui, VOA Afrique.
Il est l'heure maintenant d'aborder notre tranche magazine dans le monde aujourd'hui. Jacques Aristide, toujours avec vous. Merci pour votre fidélité à VOA Afrique. L'élection de la Rwandaise Louise Mushikiwabo à la tête de la francophonie ce vendredi à Yerevan en Arménie offre un succès diplomatique éclatant au Rwanda qui concrétise ainsi ses efforts constants ces dernières années en vue d'accroître son influence en Afrique et dans le monde. La désignation de la ministre des Affaires étrangères est une victoire personnelle pour le chef de l'État rwandais Paul Kagame et pour le président français Emmanuel Macron. À 57 ans, que va apporter Louise Mushikiwabo à la francophonie ? Morgane Guerriec a posé la question à Olivier Nduhungirehe, secrétaire d'État aux affaires étrangères du Rwanda.
Louise Mushikiwabo, c'est une femme brillante, expérimentée, qui a 9 ans comme ministre des Affaires étrangères et porte-parole du gouvernement. Louise Mushikiwabo a bien sûr exercé cette fonction dans une période où le Rwanda a connu, je dirais, des succès diplomatiques dans le monde et en Afrique. Et aujourd'hui, elle était même présidente du Conseil exécutif de l'Union africaine parce que le Rwanda dirige cette organisation pour le moment.
Une grande expérience dans les affaires diplomatiques, mais quel lien avec le français et la francophonie ?
Le Rwanda est un pays membre de la francophonie. Le Rwanda n'a jamais quitté la francophonie. C'est une occasion pour Louise Mushikiwabo de promouvoir le rayonnement du français qui est une langue, je dirais, africaine, puisque plus de la moitié du continent parle français.
Alors justement, comment est-ce qu'elle compte renforcer la francophonie ? Quel est son programme ?
Promouvoir le rayonnement de la langue française, l'échange d'expériences entre membres de la francophonie, et puis il y a aussi, et elle a insisté sur ce point, l'emploi des jeunes. Les jeunes francophones ne sont pas éloignés du français en tant que langue, mais qui se sont éloignés de la francophonie.
Revenons quand même sur le Rwanda, hein, un pays qui finalement a décidé de faire de la langue anglaise sa langue, aux dépens du français, non ?
La langue nationale au Rwanda, c'est le Kinyarwanda. C'est la langue unique qui est parlée par tous les Rwandais, ce qui est différent de beaucoup de pays africains. Le français était une langue officielle et qui était la langue d'éducation. Mais pour des raisons historiques, le Rwanda a décidé de faire de l'anglais la langue d'éducation sans pour autant supprimer le français. Le français est une langue enseignée comme matière. Le Rwanda est membre de la communauté de l'Afrique de l'Est. Et dans cette organisation, la langue officielle et la langue de travail, c'est l'anglais. Et donc, il était important pour le Rwanda de s'inscrire dans cette dynamique régionale, mais aussi de comprendre que l'anglais était une langue qui était en train de s'imposer au niveau international dans les affaires, etc. Mais cela ne signifie pas que le français n'est pas une langue importante, surtout en Afrique. Et donc, on va continuer à promouvoir cette langue sur le continent, mais aussi au Rwanda.
Olivier Nduhungirehe, secrétaire d'État aux affaires étrangères du Rwanda, joint à Kigali.
VOA Afrique, à Kigali, au Rwanda, sur 104.3, 24 heures sur 24.
Revenons sur l'affaire Jamal Khashoggi, du nom de ce journaliste critique du pouvoir saoudien, qui a disparu depuis plus d'une semaine après s'être rendu au consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul. Les États-Unis et la Turquie demandent des explications à Riyad. Une délégation saoudienne est arrivée en Turquie ce vendredi pour évoquer la question avec les autorités turques pour un décryptage. Yacouba Ouédraogo s'est entretenu avec l'universitaire Sami Aoun, basé au Canada.
Ce silence est dû au cercle politique et diplomatique autour du monde. C'est que l'Occident a toujours de la misère à équilibrer entre ses intérêts et ses valeurs. Mais en même temps, il y a un manque de responsabilité de la part de la Turquie, qui est un membre aussi proche de l'Occident et allié de l'OTAN. Alors, l'administration Trump, d'autres gouvernements occidentaux tiennent un peu un discours qui pourrait être prudent.
Jamal Khashoggi était un collaborateur du journal américain Washington Post. Et ce journal soupçonne le prince saoudien Mohamed Ben Salman, homme fort du régime, d'être derrière cette disparition. Qu'en pensez-vous?
Tous les indices montrent le doigt vers ce prince héritier qui voulait alterner l'image d'un moderniste. En même temps, il voulait s'assurer que son pouvoir a une bonne emprise sur les rouages de l'État saoudien. Ce jeune prince essaie de s'imposer par des méthodes qui se rapportent soit à des régimes autoritaires ou à des personnalités tyranniques. Il en profite parce que le vent au Moyen-Orient souffle contre la démocratie après l'échec au moins momentané du printemps arabe.
Le prince héritier entretient des liens étroits avec de hauts responsables américains, dont Jared Kushner, gendre conseiller du président Donald Trump. N'est-ce pas ce qui est embarrassant dans cette affaire pour Washington?
Certainement, et surtout on revient à une période où les Américains avaient toujours des alliances avec des tyrans, des autoritaires, et qui voulaient les garder au pouvoir.
Pourquoi pourrait-on en vouloir au journaliste Khashoggi?
Tout d'abord, il y a une lutte entre le courant des frères musulmans. Monsieur Khashoggi a été peut-être soupçonné d'avoir tendance des frères musulmans contre la tendance salafiste wahhabite qui domine en Arabie Saoudite. Alors, il se peut qu'il a payé le prix des accrochages à l'intérieur de la famille royale, mais aussi, un autre point, les exilés saoudiens, peut-être ce sont des voix qui ne sont plus tolérées lors de la consolidation de l'emprise du prince héritier sur le pouvoir.
En dehors du Canada qui hausse le ton, on n'attend pas grand monde autour. La puissance pétrolière des Saoudiens pourrait-elle justifier cela?
Oui, certainement. Leur pouvoir d'achat des armes américaines. Et surtout, il y a un facteur géostratégique. L'administration Trump alterne des mouvements d'isolationnisme, de retrait du Moyen-Orient, mais en même temps un désir de rester là-bas. Ce qu'ils craignent justement, c'est que la Chine et la Russie viennent combler ce vide américain.
Le politologue Sami Aoun, joint au Québec. Le compte à rebours a commencé en vue des élections de mi-mandat le 6 novembre prochain aux États-Unis. L'âpre bataille pour la confirmation du juge Brett Kavanaugh à la Cour suprême a galvanisé les militants de chaque camp politique. Les républicains disent que la dispute les a renforcés, alors que les démocrates estiment que le débat a enragé l'électorat féminin. Jim Malone, grand reporter de La Voix de l'Amérique, fait le point. Son reportage est rendu par Lionel Gaïma.
Moi, Brett Kavanaugh, je jure solennellement.
Après l'âpre bataille pour sa confirmation, la prestation de serment du juge Kavanaugh à la Cour suprême est une victoire politique pour le président Donald Trump.
Au nom de notre nation, je veux présenter des excuses à Brett et à toute la famille Kavanaugh pour la terrible peine et la souffrance qu'on nous a forcés à endurer.
Kavanaugh a été confirmé malgré les accusations de méconduite sexuelle qu'il a toujours niées. Maintenant, le président se sert de lui pour mobiliser l'électorat républicain en vue des élections de mi-mandat.
Le 6 novembre, vous aurez la chance d'arrêter les radicaux démocrates. C'est ce qu'ils sont devenus. En élisant une Chambre et un Sénat républicain, nous allons augmenter nos majorités au Congrès.
Les démocrates aussi ont été surchauffés par la bataille Kavanaugh. Des manifestations sont sorties dans les rues, applaudies par des sénateurs démocrates, comme Elizabeth Warren du Massachusetts.
Nous avons élevé les voix de millions de survivantes d'agressions sexuelles. Nous avons refusé d'être ces femmes qui s'assoient et se taisent.
L'intensité de manifestation va déborder sous les élections de novembre, estime Kamala Harris, sénatrice démocrate.
Let's use this week Nous devons utiliser cette semaine pour trouver cette énergie supplémentaire pour nous rappeler qu'au fond, ils ont le pouvoir maintenant, mais nous devons le reprendre.
La bataille Kavanaugh peut insuffler de l'énergie à chaque parti avant les élections, d'après Kyle Condick de l'Université de Virginie.
Peut-être que cette animosité chez les républicains leur servira de cri de ralliement pour les élections. Mais encore une fois, c'est l'histoire qui le prouvera. Et les sondages nous disent que les démocrates sont plus animés sur Kavanaugh et bien d'autres choses.
La bataille Kavanaugh peut motiver les femmes à voter d'après Jim Kessler, un analyste démocrate.
Il y a un groupe d'électeurs, les femmes âgées, qui soutenaient souvent les républicains et qui maintenant commencent à s'éloigner d'eux. Et je pense qu'elles peuvent devenir un facteur décisif dans ce scrutin.
Mais pour Frank Newport de l'Institut Gallup, Kavanaugh servira à cimenter la base de Donald Trump.
Il regarde les sondages et constate qu'il est au plus bas partout, sauf avec sa base. Alors, il a décidé, poussé par son ego, de juste voir combien il est populaire avec sa base. Et de juste parler à sa base.
Les partisans du président Trump pourront-ils empêcher une déferlante démocrate prédite par certains sondages? En tout cas, le taux de participation sera déterminant lors des élections de mi-mandat du 6 novembre.
Et avant de refermer le monde aujourd'hui, nous vous proposons une petite carte postale qui nous vient du Sénégal. Nous vous invitons précisément à partir à la découverte du lac Rose, situé à quelques kilomètres de Dakar, la capitale. John Linden, notre envoyé spécial, s'est rendu sur le site pour une visite guidée. Reportage.
Après quelques 35 kilomètres de route, nous voici donc au lac Rose. Situé au nord-est de Dakar, c'est l'un des sites touristiques les plus visités du Sénégal. Mais pourquoi l'appelle-t-on Lac Rose? Hassan, notre guide du jour, explique.
Pourquoi on dit Lac Rose? Parce que pourquoi un lac est rose? C'est à cause des algues. Avec des micro-organismes marins, ça s'appelle des batteries. Parce que si vous passez ici, si vous venez ici, à côté du lac, sur la surface du lac, si vous y en a du soleil, avec du vent, tu vois beaucoup la couleur rose.
Le lac Rose doit en effet sa couleur rose à une bactérie qui développe des piquants rouges pour se protéger des eaux fortement salées. Ce lac, à l'origine, ne s'appelait pas lac Rose. Notre guide Hassan explique.
Avant, on dit pas lac Rose, on dit lac Redba. On dit lac Redba. Oui. À cause de la couleur rose, c'est pour cela maintenant on dit la rose.
Avec une superficie de 3 km² et une profondeur de 3 mètres, le lac Rose est riche en sel. Le sel est exporté depuis les années 1970 dans toute la sous-région. Véritable curiosité naturelle et touristique, le lac Rose est aussi l'un des sites les plus visités du Sénégal. Notre arrivée sur les lieux coïncide d'ailleurs avec celle d'un groupe de touristes belges.
C'était bien. Qu'est-ce que vous avez aimé alors? Juste un mot.
Les dunes.
Voilà.
Et la mer. C'était magnifique.
Voilà.
Et le village. Tout.
Okay.
Et tous les gens sont vraiment gentils. Vraiment gentils.
Okay.
À bord d'une vieille Range Rover, nous décidons nous aussi de visiter quelques attractions autour du lac Rose. D'abord, cette plage qui s'étend à perte de vue, puis ce magnifique coucher du soleil et ses reflets sur le lac, et bien sûr, ces dunes et pistes de sable qui nous rappellent que l'endroit a aussi été le point d'arrivée du rallye Paris-Dakar. Hassan, pour une petite leçon d'histoire sportive.
Ici, c'est la dernière étape de Paris-Dakar. Parce que tu vois, lui, c'est le fondateur de Paris-Dakar. Il s'appelle Kenny Sabel. Il est tombé dans une hélicoptère sur le désert de Mauritanie. Il est tombé. C'est le fondateur de Paris-Dakar. C'est pour cela qu'on met ici le mémoire de Thierry Tchabel.
Le lac Rose dispose de nombreux campements et hôtels prêts à vous accueillir.
Et si jamais vous arrivez de venir visiter le lac Rose ici, ne manquez pas de venir à cet endroit précis. Il s'agit de dunes coquillages où vous pourrez voir à la fois la mer, l'Oasi et puis le lac Rose. John Lyndon, Dakar, VO Afrique.
Et voilà, c'est ici que nous clôturons Le Monde aujourd'hui. La mise en onde a été assurée par Georges Léonard Sagnot. C'était Régis Audrius qui nous a aidés sur la partie technique. Merci chers amis fidèles de la VOA de nous avoir accueillis chez vous ce soir. C'était Jacques Aristide à Washington. Je vous souhaite une excellente soirée et un très bon week-end sur VOA Afrique. À très bientôt.